Salut à tous, au sommaire de ce volume 8 co-réalisé avec le site RetroPlayer.fr, nous aurons Diddy Kong Racing sur Nintendo 64, Lionheart sur Amiga, Tetris et Tetris Plus 2 sur arcade, Pong sur arcade, Photograph Boy sur PC et la démo réalisée par le groupe Scoopex s'appelle Mental Hangover et elle tourne sur Amiga. Bienvenue sur Retrovision. Soyez les bienvenus sur Retrovision, l'avant-dernier de la saison 2, épisode co-réalisé avec le magazine RetroPlayer que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site RetroPlayer123.fr. Et pour commencer leur sélection de jeux d'anthologie, voici Diddy Kong Racing sur Nintendo 64. Alors que dans le cœur de beaucoup de joueurs, Mario Kart reste la référence incontestée du genre, un petit challenger va pourtant venir le chatouiller. Ce petit nouveau est Diddy Kong Racing, réalisé par Rare, studio américain bien connu des fans de Donkey Kong Country et d'autres grands hits. Diddy revient ici dans un jeu peu habituel pour un chimpanzé, celui des courses de cartes. Il s'agit alors du premier jeu de course pour le studio de Silicon Valley. La cartouche propose des modes à première vue assez classiques, un time trial, un multi assez léger et le fameux mode aventure qui est le fer de lance du jeu. Diddy Kong Racing vous propose trois véhicules différents, le kart, l'aéroglisseur et enfin l'avion. Chaque véhicule et personnage possède une maniabilité qui lui est propre, ce qui multiplie, vous vous en doutez, le nombre de sensations différentes. Le jeu reprend bien entendu le principe des jeux de course, un bouton pour l'accélération, un pour le frein et enfin un pour le dérapage. La piste de course comprend plusieurs options, comme des flèches accélérantes ou des cercles pour les avions, des ballons de couleur représentant à chaque fois des options différentes, donc facilement reconnaissables. Techniquement, le jeu est fort joli, puisant dans le style graphique des précédentes productions de Rare. Il propose des couleurs chatoyantes, même si certains niveaux, surtout les derniers, sont un peu flashy. Le jeu ne souffre d'aucun ralentissement et les courses restent toujours claires et compréhensibles. Mention spéciale aux musiques du jeu qui, en plus d'être sympathique et adapté au soft, se paie le luxe de changer selon les mondes sur la carte générale ou sur l'écran titre. Vaste et doté d'une durée de vie sérieuse, Diddy Kong Racing propose un mode solo prenant, long et surtout très diversifié. Entre les courses, les défis et les trois véhicules différents, le jeu a de quoi vous tenir en haleine de longues heures. Les personnages souffrent d'un manque de charisme assez flagrant. Mais malgré ça, Diddy Kong Racing est un titre sur lequel on aura plaisir à revenir, même si le mode multi reste un peu léger. Sûrement le meilleur représentant du genre sur Nintendo 64. Attention messieurs, dames, chef-d'œuvre, voici Lionheart, sorti en 1993 sur Amiga. Dans Lionheart, vous incarnez un homme lion nommé Valdin, parti en guerre contre Norca,
grand méchant d'entre les méchants,
qui a volé la pierre sacrée du royaume. Comble de pas de bol, sa petite copine s'est fait transformer en pierre dans le processus et vous devrez trouver un antidote. À sa sortie, Lionheart a joui d'une excellente publicité dans la presse spécialisée. On l'a comparé à Turrican ou Shadow of the Beast pour son gameplay et la beauté de ses graphismes ou encore sa complexité agréablement menée. Talion, le développeur, nous a scotché avec la sortie de ce jeu de plateforme action. Non seulement graphiquement, il est proche de la perfection, si ce n'est les dégradés d'arrière-plan, mais en plus, le jeu est un réel challenge pour tous les amateurs du genre. Le personnage principal possède une kyrielle de coups différents, allant du balayage du pied au coup d'épée standard jusqu'au hack and slash jouissif. Ceci permettant donc des mouvements diversifiés et l'élaboration de techniques efficaces pour l'éradiction de tel ou tel ennemi. Ajoutez à ceci la possibilité de grimper sur une corde sur laquelle on est pendu, de pouvoir rester en équilibre dessus un court instant afin de sauter vers une plateforme plus en hauteur et vous obtiendrez l'idée de base des mouvements du personnage, totalement éblouissant. Mixez-moi ce panel de possibilités de gameplay avec des graphismes somptueux et préparez-vous à baver littéralement devant ce jeu. Le scrolling est un régal, les niveaux de profondeur donnent une réelle impression de mouvement, mais surtout, les sprites sont à tomber raides. Côté difficulté, on déplorera le fait que le décor a parfois tendance à trop se mélanger avec les objets ou les monstres qui se faufilent jusqu'à vous. Mais qu'à cela ne tienne, nos réflexes sont mis vraiment à rude épreuve. On a souvent la fâcheuse habitude de dire que les jeux de plateforme sur micro sont un peu lourds et lents au niveau du gameplay. Ici, il n'en est rien. La jouabilité de Lionheart est exemplaire, l'animation du personnage est fluide, et en plus de ça, des phases de shoot'em up et de course à scrolling horizontal ponctuent l'action de ce hit Amiga. Véritable monument des jeux vidéo construit de toutes pièces en 1985 par son auteur russe Alexei Pazitnov, Tetris allait devenir une œuvre pionnière. Dérives et adaptations plus ou moins liées allaient ensuite pérenniser le genre en posant comme composante dominante dans l'aspect ludique l'intellect. Ainsi, en 1988, des blocs de formes différentes allaient enfin s'imbriquer pour notre plus grand plaisir sur arcade. Stupéfiant, ce jeu l'était, l'est et le sera toujours, et ce dans tous les sens du terme. Des pièces, différentes en taille et en forme, tombaient une par une inéluctablement vers le bas de votre tableau. Afin d'éviter d'être submergé, il fallait les tourner sur elles-mêmes pour les assembler idéalement entre elles, de manière à former au moins une ligne occupant toute la largeur du tableau. La création de cette ligne entraînait sa propre disparition et, par de conséquence, vous octroyait de la place pour les pièces suivantes. Pas un seul moyen n'était à négliger. Il fallait par exemple anticiper le placement de la pièce suivante qui était dévoilée dans la fenêtre annexe en fonction de celle dont on disposait sur le moment. On pouvait aussi forcer la vitesse de descente des pièces ou faire disparaître plusieurs lignes en même temps jusqu'à un maximum de 4. Tetris a tout du jeu certain de son potentiel ludique et additif. Sobre, brut, sans fioritures, sans habillage attirant, en rien impressionnant, c'est aussi une des pièces emblématiques du jeu vidéo qui, avec bonheur, rend la fascination du passionné incompréhensible aux yeux du joueur lambda. Voici le Tetris vu et arrangé à la japonaise par Jaleco en 1997, Tetris plus 2, toujours sur arcade. Cette fois-ci, il y a un scénario, et oui, un professeur dans le même style vestimentaire que les personnages de Pong et son assistante partent étudier des pyramides égyptiennes. Mais après avoir déclenché un piège, il se retrouve emprisonné dans une salle où la sortie est bloquée par des pierres de forme géométrique. Tout d'abord, il faut choisir son personnage, chacun ayant sa propre vitesse. Et ensuite, on se retrouve devant trois modes. L'original avec les règles du Tetris classique, un mode deux joueurs bien sympathique et le mode story qui est le plus amusant puisqu'il suit une progression historique avec un plan qui s'affiche au fur et à mesure. Cela permet aussi de régler la difficulté. Le but du jeu, vous vous en doutez, consiste à faire des lignes rapidement pour dégager la sortie qui se trouve en bas du tableau pour que le professeur puisse l'emprunter et ainsi accéder au niveau suivant. Si vous regardez bien en haut, vous voyez un plafond descendre lentement du haut de l'écran. Vous avez donc plutôt intérêt à activer pour former des lignes et ainsi accéder à la sortie en bas. Sinon, le pauvre professeur se fera écrabouiller, mais c'est tellement marrant de le voir courir dans tous les sens, dans un style très kawaii et humoristique. Tout à l'heure, je vous parlais de la vitesse des personnages. Chacun peut escalader les pièces plus ou moins rapidement et ainsi augmenter la difficulté. L'assistante grimpe beaucoup plus vite que le professeur. Elle est donc conseillée aux joueurs plus expérimentés. Thank you. dans un style manga très coloré, Tetris Plus 2 s'adresse à un public qui maîtrise déjà Tetris et qui cherche un renouvellement sur le concept. Attention, attention, avis à tous les accros du rétro gaming 100% japonais. La prochaine sortie de l'émission Rétrocore est prévue pour août 2009 avec très certainement pas mal de surprises. Et je ne voudrais pas trop m'avancer là-dessus. D'ici là, vous pouvez toujours télécharger les hors-séries comme le Dreamcast Shooting Special ou le Sega Saturn Shooting Special qui, une fois réunis, vous donneront presque 5 heures de vidéos exaltantes. D'entre vous n'a jamais vu sur arcade ou même n'a jamais entendu parler de Pong en 1989, ce jeu sans fond, sans histoire, ou en tout cas on ne la connaît généralement pas, mais qui a la sale habitude à accrocher et où chaque écran raté donne envie de le recommencer. Vous jouez le rôle d'un aventurier que l'on voit de dos, évoluant sur des écrans fixes et armé de votre grappin, vous devez tirer sur des ballons qui, une fois touchés, se diviseront en deux, puis en quatre, jusqu'à devenir de toutes petites boules qui, du fait de leur poids et de la gravité, rebondiront moins haut. Toute l'astuce avec Pong, c'est sa complexité croissante de niveau en niveau. En effet, plus vous touchez de ballons, plus ils se divisent et plus ils deviennent petits. Du coup, le joueur a intérêt à bien savoir ce qu'il fait avant de tirer dans tous les sens, sous peine de se retrouver noyé sous une pluie de mini-ballons. Au fur et à mesure des niveaux, le nombre de ballons augmente ainsi que la rapidité. Les écrans deviennent plus complexes avec des plateformes par exemple et vous aurez un arsenal de grappins assez spécial. Du pistolet à la corde magique ainsi que des bonus comme des boucliers ou des horloges qui immobilisent les cibles. De là, plein de techniques se mettent en œuvre pour jouer avec telle ou telle arme ou même bonus et gérer les ballons dans tous les sens. On l'aura compris, ce n'est pas pour son scénario qu'on aime Pong, mais pour le côté jouissif qu'il génère en nous. Quand on y joue, on est dans le jeu et rien ne nous en fera sortir, à peut-être le manque de temps. et le mode de joueur augmente encore plus l'intérêt des parties et libre à vous d'élaborer un style coopératif astucieux. Si vous voulez en savoir plus sur Pong, la saga, allez voir le site de référence pongarcade.com. Vous y découvrirez que Pong n'est pas qu'un jeu, mais de multiples dérivés sur presque toutes les machines existantes. Et une version Java en ligne sur Internet est disponible. Certainement l'une des productions les plus marrantes et hors normes de la ludothèque de la PC Engine, Photograph Boy ou Gekisha Boy fait partie d'un genre que l'on pourrait appeler Flash and Jump. Le principe est fort simple, il vous faudra, appareil à la main, photographier un maximum de sujets intéressants tout en évitant les objets rouges qui vous seront balancés. Bien entendu, plus vos clichés sont impressionnants et rigolos, plus ils rapportent des points et des pellicules photos. Celles-ci seront indispensables pour espérer aller loin dans chaque tableau, sinon le stage s'arrête. Et si malheureusement vous n'avez pas un certain nombre de points, votre patron vous fera recommencer direct dès le début. Eh oui, en 1992, notre Gekisha n'avait pas d'appareil photo numérique, ce qui aurait rendu le jeu beaucoup trop simple. Il suffirait de flasher tout ce qui bouge sans se soucier de la pellicule. Le gameplay demande un petit temps d'adaptation, car vous dirigez le viseur de l'appareil ainsi que le personnage en même temps, et se déplaçant plus vite que l'autre. Une fois que la maniabilité est acquise et que l'on a bien assimilé quels sont les clichés à ne pas louper pour chaque niveau, il suffit de les mémoriser vu que ceci se déroule toujours de la même façon. Alors si vous êtes prêt à flasher tout un tas de trucs chelous et si ce jeu suscite votre curiosité ou même des souvenirs, on vous conseille fortement ce Photograph Boy dont l'originalité en fait un incontournable sur ce système. Et voici la sélection flipper du site web retroplayer123.fr avec pour débuter une table qui ne manque pas de classe, millionnaire du constructeur Williams, sorti dans tous les bons cafés en 1987. Well done, darling. Techniquement, il faudra bien maîtriser le lanceur de billes de manière à toucher les trois cibles en haut à gauche. Une rampe amovible permet de prendre la bonne inclinaison pour atteindre cette partie du flip qui est pratiquement impossible à atteindre autrement. À vous de trouver le bon angle pour lancer la boule. Monte Carlo 1972 de Bali est une table ayant pour thème, vous vous en doutez certainement, le casino façon old school. L'affichage des scores s'effectue par l'intermédiaire de rouleaux, vous donnant l'impression d'être devant une grosse caisse enregistreuse. Mais ne rigolez pas, en 1972, c'était une machine vraiment très impressionnante où on prenait énormément de plaisir. Monza d'Atari datant de 1980 est un flipper très particulier puisqu'il se présentait sous la forme d'une table à cocktail. Imaginez un petit peu la scène extrêmement kitsch d'inviter vos amis à prendre un verre au-dessus d'un jeu comme celui-ci. Quant au jeu, il retrace le circuit de Formule 1 du même nom. Le seul reproche que l'on pourrait trouver, c'est que l'on boucle vite le circuit, limitant ainsi son intérêt. Mais Monza est avant tout un accessoire de décoration, mélangeant le côté pratique et divertissant. Left.